Les 12h30, même 12h31. Vous écoutez France Culture Retour à Paris avec les informations et Antoine Mercier.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La situation chaotique en Libye, au menu d'une réunion ministérielle à Vienne, en Autriche, alors que le gouvernement d'union parrainé par les Nations Unies peine à asseoir son autorité à Tripoli et que l'État islamique étend encore son influence à l'ouest de la ville de Sirte. Analyse dans un instant avec Éric Biegala. En France, la contestation contre la loi travail, avec des grèves reconductibles prévues demain chez les routiers, les dockers, les marins, les facteurs, à la SNCF aussi, ainsi qu'à l'aéroport de Paris. Précision sur ce mouvement avec Jean-Marc Chardon. Plusieurs opposants à la loi travail ont reçu ces derniers jours des interdictions individuelles de manifester demain à Paris. Interdiction notifiée par la préfecture de police afin d'éviter de nouvelles violences. Enquête de Marie-Pierre Véraud. Arnaud Montebourg, qui devrait faire un pas de plus aujourd'hui vers l'annonce d'une hypothétique candidature à la présidentielle de 2017. Commentaire de Stéphane Robert. Et puis la mort de l'astrophysicien André Braik, découvreur des anneaux de Neptune à l'âge de 73 ans. Évocation à la fin de cette édition avec Stéphane Deligeon. L'invité du journal Hervé Asquin, correspondant de l'AFP à l'Élysée, auteur de l'Élysée selon Hollande aux éditions de l'Archipel. La situation en Libye menace donc à tout moment de basculer. D'une part, le groupe État islamique a récemment étendu son influence à l'ouest de la ville de Sirte, qu'il contrôle depuis près d'un an maintenant. D'autre part, le gouvernement d'union nationale, parrainé par les Nations Unies, peine à asseoir son autorité. Aujourd'hui donc à Vienne, en Autriche, se réunissent les ministres de la Défense, ministres européens, ministres des États-Unis, ainsi que des voisins de la Libye, dans le but de soutenir, selon l'expression des diplomates, soutenir le processus de stabilisation en Libye. On en est encore très loin. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Antoine.
Il y a quelques mois, les Occidentaux parlaient assez souvent d'intervention militaire en Libye pour éviter que l'État islamique n'étende encore son influence. Le ministre français, on s'en souvient, Jean-Yves Le Drian, disait même que cette intervention était indispensable pour soutenir au moins ce nouveau pouvoir. Aujourd'hui, cette perspective semble s'être un peu éloignée. Est-ce que les puissances occidentales en sont réduites à l'impuissance en Libye?
Oui Antoine, les Occidentaux et particulièrement, c'est vrai, les Européens parlaient ouvertement il y a encore quelques mois d'envoyer en Libye un contingent de plusieurs milliers d'hommes pour réduire les forces de l'État islamique présentes sur place. Mais ils y s'étaient toujours agi, répétaient les différents chefs des diplomaties européennes, d'envoyer un contingent qui serait parti à la demande de l'autorité légitime libyenne, une autorité administrative légitime qui n'existait tout simplement pas en décembre dernier. Depuis, un gouvernement dit d'accord national a été péniblement construit au Maroc, avec le soutien de la communauté internationale. Il est arrivé à pied d'œuvre en Libye fin mars, ne contrôle que des morceaux de l'appareil d'État libyen et n'a toujours pas reçu l'onction de la Chambre des représentants, le Parlement de Libye. Et ce gouvernement, dirigé par Faiz al-Sarraj, ne demandera pas aux Occidentaux réunis à Vienne ce lundi de s'engager militairement dans le pays. Le chef du gouvernement l'a encore répété au Daily Telegraph de Londres ce week-end. Pas question de demander une intervention armée occidentale. En revanche, par son entremise, la Libye demandera à Vienne une aide militaire, de la formation pour la force armée en gestation de ce nouveau gouvernement et sans doute aussi une levée sélective de l'embargo sur les armes. L'idée, défendue par Faiz al-Sarraj, serait d'amener l'armée libyenne, ou ce qui devrait en tenir lieu, à combattre elle-même les djihadistes de l'État islamique. Actuellement, pourtant, ce sont des milices, puissantes mais souvent rivales, qui font le coup de feu dans le pays et les islamistes au drapeau noir profitent du chaos pour progresser. La semaine dernière, ils ont pris Abu Ghraib, petite ville, 130 km à l'ouest de l'agglomération de Sirte, qu'ils contrôlent depuis un an. Et ce lundi matin, des combats se poursuivaient à partir d'Abu Ghraib et en direction de Misrata au nord-ouest. Et face aux djihadistes, on ne trouve pour le moment que les seules milices de Misrata.
Merci beaucoup Éric Biegala. À propos du Nigeria, le chef de la diplomatie britannique Philip Hammond estime que les djihadistes de Boko Haram vont développer vraisemblablement leur coopération avec l'État islamique si ce dernier assoit son implantation en Libye sur le front irakien. Selon les Américains en tout cas, la coalition internationale réalise des progrès dans la campagne pour cerner l'organisation djihadiste à Mossoul, la deuxième ville d'Irak donc, dont l'assaut devrait être lancé, disait-on, dans les prochains mois. En attendant, Daesh continue de diffuser des images de propagande sur Internet et la dernière vidéo en date met en scène des enfants. Antoine Maret.
Et elle raconte effectivement pendant une quinzaine de minutes sous forme de pseudo-documentaire le quotidien d'un jeune garçon de 10 ans environ de type européen embrigadé par l'État islamique. Une voix off raconte en arabe son histoire. Sa famille est arrivée en Syrie il y a 4 ans. Son père a été tué, je cite, par les croisés. Et ce fils a donc repris le flambeau de la lutte une fois son père mort. Le jeune garçon est interviewé en français. Le mouvement de ses yeux et le ton de sa voix laissent penser qu'il lit un texte. Il explique les différences d'éducation entre la France et l'État islamique. En Occident, on apprend la mixité, la nudité, le mariage entre les mêmes sexes, contraire aux lois divines. Ici, au contraire, on apprend la vraie science, celle qui va nous sauver le jour du jugement. Il raconte son quotidien, la prière, les cours. Ici, on ne manque de rien. Il y a toujours quelqu'un qui veille sur nous. On est comme des frères de sang. On le voit ensuite s'entraîner à tirer au fusil d'assaut. Parmi les cibles, des portraits de François Hollande, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. La vidéo se termine par l'exécution de 2 hommes présentés comme des espions. Le montage laisse penser que les bourreaux sont 7 enfants et un autre garçon encore plus jeune. Ça n'est pas la première fois que Daesh met ainsi en scène des enfants. L'efficacité est double. Ce genre de vidéo suscite une forte émotion en Occident. Les parents tentés par le djihad peuvent aussi se laisser convaincre par les prises en charge spirituelles et matérielles des enfants par Daesh. Selon un rapport de l'Académie militaire de West Point aux États-Unis, le nombre d'enfants et d'adolescents recrutés par Daesh aurait doublé en 1 an.
Antoine Marette, l'association CIMAD, qui aide les étrangers à faire reconnaître leurs droits, dénonce ce matin l'attitude de médecins par rapport aux migrants. Elle assure que nombre de médecins se livrent un racket auprès des migrants pour notamment la réalisation de certificats médicaux en vue d'un titre de séjour. La semaine dernière, il y a eu un praticien hospitalier de la Pitié-Salpêtrière qui a été suspendu, soupçonné de s'être fait payer donc par des migrants pour leur accorder ce fameux certificat médical nécessaire à leur démarche pour obtenir un titre de séjour pour raison de santé. Une enquête préliminaire est en cours auprès du parquet de Paris, mais si l'on en croit donc la CIMAD, ce ne serait pas un cas isolé. La consultation, la prise en charge par l'assurance maladie, rappelle l'association, et les migrants n'ont pas à avancer d'argent aux médecins. Pourtant, de nombreux médecins demanderaient des honoraires. Laura Petersel, chargée des questions de santé à la CIMAD, a été jointe par téléphone ce matin par Alexandra Viera.
On a beaucoup de témoignages de gens qui passent par les médecins agréés pour avoir ce fameux rapport médical détaillé, et pour lesquels les médecins demandent de l'argent, alors qu'ils ne devraient pas, puisqu'il s'agit d'un acte de soin. C'est des gens, normalement, qui sont intégralement couverts par la protection maladie, et ils ne devraient pas avoir à payer en plus. Les tarifs qu'on demande aux gens, c'est 90 euros, des quelques centaines d'euros parfois. Alors évidemment, ça dépend complètement des médecins, mais voilà, c'est des sommes qui sont quand même particulièrement élevées, quoi.
Et est-ce que vous pensez que les médecins agréés sont de mauvaise foi, qu'ils font payer parfois parce qu'ils ne connaissent pas le processus, ou vraiment intentionnellement ?
Je pense qu'il y a les deux, et de toute façon, nous on a alerté depuis plusieurs années, nos associations, on alerte le ministère de la Santé sur cette question. Il y a une instruction du ministère de la Santé du 10 novembre 2011 qui dit clairement que c'est un acte de soin et qui ne doit pas être considéré comme un acte payant en plus des actes de soins classiques. Et une instruction du ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur qui redit ça le 10 mars 2014. On alerte très régulièrement sur ces pratiques-là.
Et qu'est-ce que vous attendez maintenant du ministère ?
Nous, ce qu'on préconise, en fait, c'est que le rapport médical qui sert à la demande de titre de séjour pour sain puisse être rédigé par le médecin de la personne, le médecin traitant de l'intéressé.
Et la CIMAD qui attend aussi du ministère des réponses fortes, dit-elle, sur ces entorses à la déontologie. L'actualité politique et sociale en France avec la poursuite de la contestation contre la loi travail. Malgré l'adoption du projet en première lecture à l'Assemblée, il y a 7 syndicats qui ont appelé leurs organisations respectives à construire, c'est leur expression, construire 2 nouvelles journées de grève et manifestations. Donc demain, mardi et jeudi, ce seront les 6e et 7e jours en un peu plus de 2 mois. Des grèves donc reconductibles prévues chez les routiers, les dockers, les marins, les facteurs à la SNCF ainsi qu'à Aéroport de Paris. Le rejet de la loi travail, Jean-Marc Chardon, se greffant parfois sur des revendications qui sont propres à chaque secteur.
C'est la loi travail qui fait l'effet de grand épouvantail, qui donne prétexte, c'est vrai, à l'éclosion de plusieurs mouvements sociaux, mais elle permet aussi à des organisations syndicales de l'utiliser en rebond de revendications catégorielles. C'est une stratégie très développée par la CGT, Sud et FO. Alors on n'est pas sur une logique simplement articulée sur l'opposition à la réforme El-Khomri, c'est clair. C'est le cas d'ailleurs à la SNCF, où le fond de la contestation, c'est tout de même les tensions autour de la future convention collective. Dans le secteur aérien aussi, où les contrôleurs sont appelés à débrayer, comme les techniciens, les administratifs, chacun partant sur des mots d'ordre particuliers. En revanche, il y a partout matière à fédérer des mécontentements, notamment sur la réforme du travail qui prévoit une modification, on le sait, dans le régime des heures supplémentaires qui rajoute au mécontentement catégoriel. C'est ce qui fait entrer aujourd'hui dans le mouvement les routiers, les dockers, les marins. D'où cet effet d'empilement, de mouvement auquel on assiste. Alors le fait que ces mouvements se concentrent en sortie de pont, celui de la Pentecôte, a l'intérêt pour les organisations syndicales de jouer sur un effet calendrier évident. Ce sont elles qui reprennent la main et cela quelques jours après l'adoption du 49-3 où les manifestations n'ont pas tellement mobilisé. Ces mouvements iront-ils au-delà de revendications catégorielles et vont-ils vraiment s'unifier sur le mode de la convergence? Ça, c'est encore à démontrer.
Jean-Marc Chardon, merci. Par ailleurs, plusieurs opposants à cette loi travail ont reçu ces derniers jours des interdictions individuelles de manifester demain, donc à Paris, demain et jeudi dans la semaine. Interdiction notifiée par la préfecture de police qui espère, dit-elle, éviter de nouvelles violences. Mais selon l'association Action Antifasciste Paris Banlieue, ces arrêtés sont les premier à tomber sur Paris dans le cadre de ce mouvement contre la loi travail. Marie-Pierre Véro.
Et oui, au moins 18 personnes seraient concernées, notamment des militants de la FAIN, de ce collectif Action Antifasciste Paris Banlieue et du mouvement Interlutte Indépendant. C'est en tout cas le décompte à l'heure actuelle du collectif de défense collective qui organise une riposte juridique. Un recours en référé liberté a été déposé dans la nuit. Le préfet de police de Paris s'appuie notamment sur l'article 5 de la loi sur l'état d'urgence, récemment prolongé, qui permet d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics. Cette interdiction concerne les arrondissements par où doit passer la manifestation demain, les 6e, 7e, 14e et 15e, entre 11h et 20h, ainsi que de 18h à 7h mercredi matin, la place de la République et les rues alentours où se retrouve le mouvement Nuit Debout. L'arrêté vise donc à prévenir des violences, rappelant la présence d'individus casqués et masqués et les récents débordements lors des défilés contre la loi travail, et dit en substance, ces activistes ont été remarqué à de nombreuses reprises lors de manifestations contre les violences policières et le projet de réforme du Code du travail. Ces manifestations ont dégénéré en troubles graves à l'ordre public et conclut, il y a tout lieu de penser que la présence de cette personne au rassemblement vise à participer à des actions violentes. Mais le texte ne précise pas si les militants incriminés ont bel et bien été vus commettant ces violences. Selon leurs proches, aucun d'entre eux n'aurait été interpellé lors des manifestations. Il semble en effet que ces arrêtés qui s'appuient sur l'état d'urgence soient les premiers utilisés dans le cadre de ce mouvement. Les derniers connus à ce jour étaient ceux qui avaient été pris dans le cadre de la COP21 contre un certain nombre de militants écologistes, des arrêtés contestés en justice, des assignations qui n'avaient pas empêché une manifestation place de la République de dégénérer. Ce matin, le collectif antifasciste prévient sur son site « Vous voulez nous faire sortir par la porte, on rentrera par la fenêtre ».
Marie-Pierre Véro, merci beaucoup. On salue notre invité Hervé Asquin. Bonjour.
Bonjour.
Vous suivez l'actualité élyséenne pour l'AFP. Vous venez de publier l'Élysée selon Hollande aux éditions de l'Archipel. Comment est-ce que vous expliquez que le chef de l'État semble ainsi s'empêtrer dans les projets que pourtant lui-même porte? On pense notamment à la réforme constitutionnelle et cette réforme aussi sur la loi travail qui ne finit pas forcément très, 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 très bien pour lui.
Bien, je pense qu'il y a là, en fait, le signe de quelque chose qui ne fonctionne pas depuis le début du quinquennat. Et sur cette affaire de la loi travail, on a observé que le président était obligé de forcer le pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'avait pas de résultat sur le front du chômage. Donc, il en a oublié de consulter ses alliés, les syndicats réformateurs, la CFDT, la CFTC. On a bien vu dans le début de ce débat qu'il a fallu retarder la présentation au Conseil des ministres pour justement donner un peu de temps à cette négociation. Mais malheureusement, il était déjà trop tard.
Donc ça, c'est une... Vous avez l'impression que c'est parce qu'il est pressé de faire autre chose que ce qu'il a fait précédemment qui n'avait pas marché.
Oui, et puis parce que la ligne politique n'est pas clairement affirmée. On a là un texte d'essence libérale, pro-entreprise, pour le moins. Et François Hollande n'a jamais dit s'il était encore socialiste, s'il était social-démocrate ou s'il était aujourd'hui social-libéral. Et c'est cette absence de ligne politique qui crée le trouble.
Alors vous allez nous dire précisément ce qu'il est dans quelques minutes, Hervé. Asquin. Merci beaucoup. On va parler d'un autre homme politique. C'est son solitré à lui, Arnaud Montebourg, qui va effectuer ou qui effectue en ce moment même peut-être l'ascension du mont Beuvray, 821 mètres. Il devrait faire un pas de plus vers l'annonce d'une possible candidature. L'ancien ministre de l'économie, comme d'ailleurs son successeur Emmanuel Macron, cherche finalement à être prêt au cas où il y aurait une ouverture pour 2017, Stéphane Robert. En fait, la situation semble tellement dégradée à gauche que effectivement, elle peut légitimement entretenir les ambitions de beaucoup de monde.
Oui, après Emmanuel Macron, qui le mois dernier a lancé son propre mouvement politique baptisé En Marche, cette fois c'est Arnaud Montebourg qui se met en mouvement et pose les jalons d'une possible candidature à la présidentielle de 2017, au cas où, vous le disiez, François Hollande ne serait pas en mesure de se représenter. Car il n'est pas impossible qu'il décide au bout du compte de renoncer. Le chef de l'État a lui-même conditionné une nouvelle candidature à l'inversion de la courbe du chômage. Et quand bien même ça s'améliorerait de ce côté-là, avec la tripartition du paysage politique en France, s'il apparaît qu'Hollande reste au plus bas dans l'opinion et qu'il est irrémédiablement distancé par le candidat de la droite et par Marine Le Pen, il pourrait être contraint de ne pas y aller. En tout cas, la question se pose. Et du coup, les ambitions pour une candidature alternative à gauche s'expriment de part et d'autre de la fracture apparue au sein même du Parti Socialiste. Sur la ligne sociale libérale, on en parlait, on avait Manuel Valls comme potentiel recours jusqu'à il y a quelques mois. Et désormais, on a de plus en plus Emmanuel Macron. Et puis, sur une ligne de gauche plus orthodoxe, les socialistes dits frondeurs ont longtemps attendu des signaux du côté de Martine Aubry. Finalement, elle semble avoir renoncé à incarner une alternative à François Hollande. Et du coup, celui qui apparaît en mesure de récupérer ce courant-là au Parti Socialiste, eh bien, c'est Arnaud Montebourg. D'ailleurs, à ses côtés, sur le Mont-Beuvray, vous avez les deux chefs de file des députés frondeurs à l'Assemblée, Laurent Baumel et Christian Paul. Alors, Montebourg ne va pas déclarer sa candidature ce midi. On n'en est pas encore là, mais il montre qu'il est disponible. Et en cela, c'est aussi une manière de tester l'opinion pour voir un peu comment sa candidature serait perçue. Et puis, il y a aussi la question sous-jacente d'une primaire à gauche. On sait que Montebourg y est favorable. Le PS doit décider le 3 juin prochain s'il en organise une ou pas. Le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Thierry Mandeau, a encore une fois dit ce week-end qu'il fallait en organiser une, qu'on ne pourrait pas y couper.
Stéphane Robert, merci, qui a mis aujourd'hui sa marinière. Bon, Hervé Asquin, une question là-dessus. Vous qui donc êtes à l'Élysée, qui observez le chef de l'État quotidiennement, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête en ce moment relativement à 2017 ?
Bien, ce qu'il y a dans sa tête relativement à 2017, c'est la préparation d'une campagne. La question maintenant, c'est comment parvenir à se présenter et comment être éventuellement au second tour. Et là, il y a trois étapes qu'il doit franchir. La première, il est en train de le faire, c'est de présenter un bilan présentable. Ça n'est pas très simple, on le voit. La seconde, ça va être de présenter un projet. Et là, ce sera encore plus compliqué à la tête d'une majorité écartelée. Et la troisième étape, ce sera de rassembler. Et on voit bien que le rassemblement n'est pas encore pour aujourd'hui.
Ah, effectivement, c'est des travaux d'Hercule un peu. Il reste plus qu'un an quand même pour se préparer. Est-ce que vous avez déjà, malgré tout, des pistes qui pourraient être suivies par François Hollande pour notamment redéfinir une ligne politique, par exemple, pour être candidat à une nouvelle élection, dire autre chose que ce qui a été dit précédemment?
Eh bien, c'est la grande question, il faudra lui poser à lui-même, parce que pour l'instant, il n'y a pas répondu.
J'attendais que vous, qui aviez son oreille, peut-être, vous puissiez nous en dire un peu plus. Stéphane Robert.
Sur le bilan, vous disiez qu'il faut présenter, il a commencé à le faire, quelque chose de présentable, c'est ce que le mot vous a pris, mais est-ce que le seul discours suffit?
Alors non, le discours ne suffit pas, il faut des preuves, il faut avancer des preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est le chômage, qui a reculé certes le mois dernier, mais c'est encore insuffisant. Et c'est le pouvoir d'achat, c'est ce que les Français attendent. Donc si sur ces deux terrains-là, il n'y a pas de preuves présentées aux Français, et s'ils ne le présentent pas très tôt, eh bien les chances d'atteindre le second tour sont extrêmement faibles. Et il le dit lui-même dans mon livre. Il me dit très clairement, si début 2017, l'ambiance est morose, c'est foutu. Il emploie l'expression lui-même.
Donc l'ambiance est morose, ça... donc déjà c'est 2017, donc on se situe déjà en janvier, à quelques mois de l'élection. Ça veut dire qu'il peut attendre jusque-là avant de se déclarer? Ou
non,
est-ce qu'il va se déclarer avant?
Il va se déclarer avant, il va se déclarer en décembre, peut-être fin novembre, décembre, parce qu'il y a justement cette pression aussi de la primaire socialiste, et puis parce que je pense qu'il a une campagne difficile devant lui.
Comment on peut dire on se déclare en novembre et puis on verra en janvier si c'est foutu ou pas? C'est ça en fait l'idée.
Oui, il y a un peu une manière de procrastiner chez François Hollande qu'on a déjà observé. Je pense que d'ici à décembre, quand même dans six mois, on y verra un peu plus clair sur l'évolution de la courbe du chômage.
Donc ça veut dire quand même que vous nous dites aujourd'hui, il va être candidat. Ou est-ce que, malgré tout, il peut renoncer avant donc le mois de novembre?
Il est en train de s'y préparer. Il y a quelques jours, il a tenu une espèce de meeting devant au théâtre du Rond-Point. Il était d'ailleurs assez convaincant dans cet exercice. 2006, qui ressemble à une campagne électorale. Il est très bon candidat, ça c'est indéniable. On l'a observé en 2012.
Enfin bon, ça c'est comme les allumettes, ça marche qu'une fois quand même.
Oui, puis il y a eu la présidence entre-temps. Mais il est en train de poser les jalons.
Comment est-ce qu'il fait pour contenir les candidatures alternatives? Là, on le voit, Montebourg, Macron, Valls éventuellement. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Il est conscient de ça?
Il en est parfaitement conscient, mais je n'ai pas le sentiment qu'il ait encore contenu ses velléités personnelles, ses ambitions personnelles. On voit bien que Macron se prépare, Montebourg se prépare, ce sont un ancien ministre, un ministre du gouvernement actuel. Il laisse se développer, et c'est peut-être l'un des sujets de discussion, et particulièrement cette phase de préparation. On se souvient de 2012, de la primaire socialiste. À l'époque, François Hollande était dans l'opposition, pouvait se contenter d'être le poisson pilote de courant contraire au sein du Parti socialiste. Une fois au pouvoir, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut réunir tout ce monde, et c'est ce qu'il n'est pas parvenu à faire.
Il connaît très bien l'histoire politique récente, vous dites dans le livre, y compris l'histoire au sens large d'ailleurs de la France, mais on l'entend quand même assez peu parler ou mettre en avant sa vision de la France et sa vision du monde. Est-ce qu'il en a une et pourquoi la cache-t-il s'il en a une?
Ben, c'est ce qui a manqué. Il en a certainement une, mais c'est ce qui a manqué dans le récit, je dirais, national ou politique de ce quinquennat, c'est cette histoire que les Français attendaient et qu'ils n'ont pas vue ou trouvée.
Vous allez dire François, vous l'appelez par son petit nom.
Non, ah bon. Pas du tout. François Hollande imaginait le pouvoir, ce qu'il a vu ne ressemblait pas à ce qu'il a vu. Ce qu'il a imaginé ne ressemblait pas à ce qu'il a vu. Je crois que la difficulté aujourd'hui pour lui, c'est de définir une ligne politique, mais c'est trop tard. Il fallait le faire dans les 100 premiers jours. Il a raté ses 100 jours. On se souvient du faux plat de l'été 2012. Et depuis, il traîne cette affaire comme un boulet.
Est-ce que vous avez une relation personnelle avec lui en étant à l'Élysée toute la journée?
Eh bien, je dirais qu'on a on se voit pratiquement tous les jours, mais la relation reste extrêmement professionnelle, c'est-à-dire
tous les jours, quand
le président
même,
et je suis journaliste.
En plus, avec quelqu'un comme François Hollande qui doit facilement dire ou parler ou être en sympathie, on va dire.
Il est en sympathie, mais vous savez, il reste le président et il tient beaucoup à rester dans cette fonction présidentielle.
Il y a un chapitre sur les femmes dans votre livre. Est-ce qu'on peut dire que là aussi, il y a un problème? Le couple, la vision du couple?
Oui, il y a eu un problème d'emblée avec Valérie Trierweiler, qui n'a jamais trouvé sa place réellement à l'Élysée. Et ça a posé les problèmes que l'on sait. Aujourd'hui, il y a une figure fantomatique, Julie Gayet, qui est là sans être là. Oui, ça pose un problème.
Il ne vous demande pas de conseils là-dessus?
Certes, non.
Hervé, oui, tes dernières questions, vraiment très courtes.
On le présente souvent comme un stratège un peu machiavélique, un calculateur sans affect. Vous confirmez ça? C'est votre avis aussi ou pas?
C'est un peu mon avis. C'est quelqu'un qui calcule beaucoup, qui se trompe aussi d'ailleurs assez souvent, mais il n'a pas un affect très développé. Il le reconnaît, il l'a reconnu dans nos entretiens.
Hervé Asquin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, L'Élysée selon Hollande, aux éditions de l'Archipel. Il nous reste quelques minutes pour rendre hommage à l'astrophysicien André Brahic, découvreur des anneaux de Neptune, qui est mort hier à Paris à l'âge de 73 ans. Et pour cela, nous sommes en ligne avec Stéphane Delis-Georges, producteur de Continent Science, chaque lundi 16h-17h sur France Culture. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Qu'est-ce que ça représente, découvrir les anneaux de Neptune?
Ça se fait en deux temps d'abord, parce qu'on avait d'abord vu des anneaux sur d'autres planètes, de grosses planètes, hein, comme Jupiter ou Uranus. Et puis André Brahic, qui était une sorte de zébulon vibrioniste de l'astrophysique, et lance un programme. On regarde à un moment si Neptune, lors d'une occultation avec le Soleil, n'aurait pas quelque chose d'un style d'anneau. Et hop, premier bingo, il y a une sorte d'anneau, c'est un arc. C'est très étrange, c'est pas un anneau complet. Quelques temps plus tard, avec Voyageur 2, 89 cette fois, et là, bingo, second, si on peut dire, 5 anneaux, quasi complets, qui sont baptisés Gall, Le Verrier, La Salle, Argo et Adams. Le dernier, donc Adams, 62 930 km de rayon, se décompose, tiens, en 4 arcs. Les premiers sont découverts par André Brahic, nous sommes en 89, on fête 1789, et là, Brahic montre son à-propos, il les baptise Liberté, Égalité, Fraternité, le quatrième découvert, plus tard, sera baptisé Cécile pour courage. Mais on peut dire que c'est son enthousiasme, autant dans l'application, la malice et la perspicacité dans les recherches astrophysiques, que le personnage.
Vous l'avez bien connu, il avait de l'humour, il avait des qualités pédagogiques extraordinaires, et puis il a été le correspondant de l'émission, en tout cas de l'ancêtre de votre émission.
Oui, absolument. Pendant plus de 4 ans, c'était au moment d'ailleurs des arcs qu'il venait donner des actualités de l'astrophysique. Mais surtout, ce qui était drôle, c'est que c'est peut-être l'un des personnages que j'ai pu avoir au micro qui était avec une élocution totalement mitraillette, d'une rapidité extrême, mais on comprenait absolument tout. Et il faisait exactement la même chose, mais en anglais, devant les jurys américains de la NASA, pour toujours, en parlant mitraillette, mais English, et ça les faisait mourir de rire, pour intégrer des programmes européens dans les programmes américains, ils réussissaient toujours. Et puis je voudrais lui rendre un dernier hommage, c'est un aphorisme qu'il faisait, qu'on peut lui retourner, parce que ça le caractérise bien. André Braille prenait tout le temps la lutte contre les homo tristus, et puis il était pour la lutte en faveur des homo rigolus, dont il disait qu'ils étaient moins nombreux, mais beaucoup plus utile.
Voilà, dont André Braïk, mort hier à l'âge de 73 ans. Merci beaucoup Stéphane Delie-Georges. Le temps pluvieux sur le nord-est, variable ailleurs. Température 12 à 23 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h avec Antoine Denecher.